une autre journée remplie de neige ce matin. Je ne sais pas ce que ça a l'air chez vous, mais ici, ça tombe de même.
Ça ne m'a pas empêché de prendre ma marche.
Ah ouais, déjà. Si tu es un gars en forme, puis à ton affaire, Max.
T'allais porter les enfants à l'école, petite demi-heure de marche. On se tient prêt parce que là, on a le barbu à matin. Là.
On a le barbu. Il est venu avant les fêtes. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas vu. Fait que j'ai comme relancé. J'ai comme, hey, barbu, faudrait que tu reviennes. Puis là, il m'a dit en plus. Fait que là, barbu, je sais que t'aimes pas ça, là, avoir trop de pression, mais tu m'as quand même dit que c'était un crisse de solide texte. C'est de même que tu me l'as dit. Fait que désolé pour mes mots, mais c'est de même que tu me l'as dit.
Absolument. Je suis bien fier de ce texte.
J'ai hâte de voir. Ben, en fait, je l'ai lu. Il est disponible sur le site de Baseball Québec, là. Fait que, écoute, avant d'aller là, je vais quand même prendre tes nouvelles. Comment ça va?
Ça va quand même super bien. De retour d'un combat contre la COVID, j'ai gagné ça avec une descente du coude, puis ça a bien été.
Tant mieux, on est deux.
Et voilà. Ah oui, hein?
Ouais.
Pendant le temps des fêtes, Omicron est venu faire sa place. J'ai été en isolement 10 jours. Puis là, ça va super bien, puis bien content, là.
Tant mieux. Moi, j'ai été me faire vacciner hier, 3e dose. Je vous avoue que j'ai mal au bras ce matin, mais ça va.
Ah ouais, c'est ben de bonheur. Moi, mon rendez-vous, c'est juste en février.
Ouais, mais Jeff, il a 55 ans, là. Ça paraît pas, là, mais t'as âgé, Jeff.
Et voilà, ça paraît pas, hein?
Mais non, t'as peau de pêche. toi, t'es une ancienne belle d'Ivory. C'est ça qui arrive.
Exactement. C'est exactement comme ça que j'aurais décrit la patente. Barbu, on va te laisser aller avec ton texte, avec ta voix mielleuse. Puis dès que tu as fini ça, écoute, on va te féliciter parce que c'est sûr que ça va être bon. Puis on reçoit Yannick Desjardins après, juste pour mettre les gens en haleine de tout ça. Fait que Yannick, qui est en attente, s'en vient nous rejoindre immédiatement après ton texte, bien hors du jazz. Barbu, ton texte de ce matin, Béatrice Jackie Mitchell. Moi, je t'avoue que j'avais aucune idée qu'elle existait, cette femme-là. Tu m'as un peu titillé l'oreille quand tu m'en as glissé un mot. Fait que j'invite les gens, encore une fois, à aller sur le site de BQ. Vous pouvez lire le texte pendant que Barbu raconte son histoire à sa façon. Donc, Barbu, je te laisse aller.
Bon, ben c'est ça, j'aime ça. Je suis un fouineux de ces vieilles histoires-là de baseball. Je la connaissais, Jackie, mais pas en profondeur. J'aime beaucoup le baseball des années 1800, bien, bien gros, là. Les premières années des Ligues majeures, c'était folklorique. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça que j'aimais autant la division Adam dans le temps dans la Ligue nationale. C'était folklorique. Donc, j'y vais tout de go avec mon texte qui s'intitule Béatrice Jackie Mitchell. Jackie est née le 29 août 1913 dans l'État du Tennessee. Elle est décédée le 7 janvier 1987 dans l'État de la Géorgie. Avec son départ, elle a laissé un héritage d'une immensité à la hauteur de son personnage. Un héritage pour toutes ces jeunes filles, adolescentes et femmes qui jouent aujourd'hui au baseball. En pleine Grande Dépression, pendant que la bourse mondiale avait fait une chute mirobolante, pendant que les Américains faisaient la file avec des coupons pour avoir des pétacles, pendant que nous étions censés être au temps d'une paix en deux guerres mondiales, Béatrice Jackie Mitchell a écrit à coups de balles cassantes et de balles papillons l'une des plus belles pages de l'histoire du grand livre du baseball. La fille de Mme Vern Wall Mitchell et du bon Dr. Joseph a grandi à l'ombre d'un terrain de baseball. De la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir la frise qui était au bout du losange remplie de sable. Pas n'importe quel sable, sable de baseball. Celui que Ty Cobb a fait manger à plusieurs adversaires. Son voisin d'à côté était Arthur Daisy Vance, l'artiste de la balle cassante des Reds de Cincinnati, entre autres, et membre du Temple de la Renommée, rien de moins. La petite Béatrice a lancé des milliers de balles avec son père et Daisy. Elle a reçu les connaissances pour éventuellement que tout frappeur devant elle fende l'air. Tellement d'air qu'elle aurait pu y faire fonctionner une plaine à perte de vue de moulin à vent et donner une raison de vivre à Don Quichotte et son acolyte Sancho Panza qui se battait contre des moulins. En 1930, à l'âge de 17 ans, Jackie jouait avec The Anglet, une équipe féminine de sa ville de Chattanoogan au Tennessee. Au même moment, il y avait l'équipe de l'excentrique Joe Angle. Et le mot est faible. Les Lookouts de Chattanoogan qui faisaient parler d'eux à travers les stades des ligues majeures. Pendant la Grande Dépression, on l'appelait le baron du ballonné. Il a presque tout fait pour promouvoir son équipe double A. Il a déjà échangé, et c'est dans les livres, un arrêt court pour une dinde de 25 livres lors de l'action de grâce pour faire parler de son équipe. Il vivait littéralement la citation « Parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais surtout, parlez de moi ». Son plus grand coup publicitaire à vie a pris naissance le jour qu'il a vu lancer la jeune Béatrice Mitchell lors d'un entraînement de son équipe avec les Anglets. Lors d'une fameuse partie d'exhibition chez Chattanoogan contre les Bombardiers du Bronx, les légendaires Yankees de New York, GF, il a fait signer un contrat à Jackie. Le jour J, pour une bonne somme d'argent, il a demandé au troisième et quatrième frappeur des Bombardiers d'affronter sa protégée, Mam Mitchell. C'est alors que l'histoire allait s'écrire ce jour-là. The Sultan of Swat, le Bambino, Babe Ruth, puis The Iron Horse, l'homme le plus heureux au monde, Lou Gehrig. Mademoiselle Béatrice allait affronter le meilleur duo de l'histoire encore aujourd'hui, rien de moins. On s'entend, quand t'es lanceur, puis le troisième frappeur de la formation que t'affrontes, c'est Babe Ruth, puis le quatrième après ça, ben c'est juste Lou Gehrig. Quand elle s'est présentée au Monticule, la foule sifflait. D'ailleurs, le stade de balle était plein au bouchon, même que la ville de Chattanoogan avait arrêté d'exister le temps de ce tour au bâton historique. Lou Gehrig fut le premier à se présenter au bâton. La balle cassante de Jackie allait casser parfaitement trois fois de suite. La foule était sous le choc autant que Sweet Lou. Il a retourné avec son bâton sur son épaule puis son petit bonheur vers le dugout. Retirer Lou Gehrig sur trois balles. Lui, le meneur de points produits dans toute l'histoire du baseball. Lou allait terminer sa carrière avec une moyenne au bâton à vie de 340, les enfants. Se présente maintenant sous une foule délirante, le plus grand joueur de l'histoire de ce sport, tout simplement, puis il n'y a même pas de discussion. Urban Babe Ruth. D'ailleurs, je tiens à mentionner, le meilleur joueur de l'histoire, ben les Red Sox de Boston, eux autres, ils l'ont échangé. Contrairement à Lou, il n'a pas donné la main à Jackie. Pendant que Jackie est en pleine motion pour son premier lancer, Ruth a demandé un temps d'arrêt. La foule siffle. Babe Ruth fait un clin d'œil à Jackie et pointe le champ centre avec son bâton. La foule délire littéralement. Un grand classique de Babe Ruth. Babe Ruth bat le sol de ses crampons comme un cheval pur sang. Il veut faire éclater cette balle et renvoyer Béatrice Mitchell à ses chaudrons. Ça fera. Note de l'auteur. Quand je t'ai rendu là dans mon texte, je me suis rendu compte que j'avais 714 mots d'écrit pour cette chronique. Le même nombre de circuits en carrière pour Babe Ruth. Maudit Bambino. La première balle que Babe voit, c'est une balle papillon qui frôle à peine les 45 000 à l'heure. Comme si la chenille se transformait en papillon rendu au marbre. Le gargantuesque personnage a fendu l'air tant et tellement qu'il est tombé sur le dos. Il est tombé sur son numéro 3. Il se relève, sourit sur place. Une balle cassante, cette fois en plein cœur du marbre, tombe au moment parfait. Ruth se lance dans le vide. La foule devient silencieuse. Le momentum avait changé maintenant. La petite ville de Chattanoogan était avec Jackie. Quand Ruth a demandé un temps d'arrêt cette fois, en plein dans la motion de Jackie, La foule a hué Babe. Est-ce que Béatrice, Jackie Mitchell, allait réussir l'impossible? Elle regarde son père, elle regarde Daisy, s'essuie les yeux. Elle fait un clin d'œil à Babe Ruth, puis elle indique où est-ce qu'elle va lancer la balle. La foule se lève debout, applaudit à tout rompre. Je sais pas pourquoi on dit ça à tout rompre. Le bon vieux Joe Engel, alias le baron du ballonné, se frotte les mains de joie. La foule redevient silencieuse. Un silence qui a traversé le Tennessee, puis peut-être le pays au complet. Au complet. La balle de Jackie quitte sa petite main de petite bonne femme de 5 pieds 1. Ses doigts ont lâché les cordes. La balle rolling est partie vers un moment historique, rien de moins. Elle est atterrie dans le gant de cuir du catcher pendant que Babe Ruth fendait de l'air pour une troisième fois. La foule est restée bouche bée. Elle est restée bouche bée voyant Babe Ruth se diriger vers le monticule. Le Babe, qui a toujours aimé le spectacle, l'entertainment, il a enlevé sa casquette. Il a donné une sincère poignée de main à Jackie. Puis il l'a monté sur ses épaules pour un tour de champion, pour un tour de championne. Ben, j'aime croire qu'il y a un peu de Jackie Mitchell dans chacune de nos joueuses de balle aujourd'hui. Et je dédie ce texte avec beaucoup, beaucoup d'émotion à deux joueuses des Rebelles, deux sœurs, par surcroît, qui l'ont pas eu facile cette année. Vraiment pas facile. Catherine et Caroline Cavanaugh. Voilà.
C'est barbu.
Ben, ça me fait plaisir.
Solid job. C'est du l'inconnu pour moi. Fait que je suis merci pour ce texte-là ce matin. Barbu, on peut te lire et t'entendre où?
Au barbudeville.com. Sinon, on peut s'abonner à mon Patreon, patreon.com/barbudeville. Sinon, on peut me voir sur Twitter, Barbudeville, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest. Puis on peut me voir à 5 Anottes aussi.
C'est bon.
C'est fait un tour dans le coin.
Et je pourrais mentionner qu'on peut me voir sur Tinder, mais là, ça serait mal placé.
Ça a été bien placé, bravo.
Ouais, c'est ça. OK. Hey, on fait une petite pause. Merci, Barbu, d'avoir été là. On fait une petite pause et on revient avec Yannick Desjardins.
Ciao!
Salut, les boys. Comment ça va ce matin?
Ah, bien, toi?
Ça va. Hey, c'est inspirant, ça, un matin, hein?
Hey! Le Barbu a sa façon de parler, a sa façon de conter ses histoires. C'est pour ça qu'on l'a au show avec nous autres.
On s'ennuie jamais que Barbu, Yannick. En forme?
Très, très en forme.
Tu viens nous parler des coachs ce matin, ça va être intéressant, ça.
Exact. Ben, je pense que c'est un petit peu pour ça que je suis là, c'est un petit peu pour ça que je suis engagé à Baseball Québec. Là, ça me fait plaisir de partager un petit peu là, les nouveautés là, dans quoi que je suis là, depuis l'automne dernier, surtout. Là. Fait que, un bon matin pour ça.
Yes. Tu m'as dit que tu voulais parler d'une formation qui, en fait, un projet pilote qui est d'analyser la formation et le développement des entraîneurs. Parle-moi de ça un peu.
Exact. Mais en fait, là, l'origine du projet, puis là, c'est un petit peu là dans quoi je suis engagé depuis l'automne dernier, c'est que je dirais que l'année passée, le projet a commencé au civil un peu, où ce que le gouvernement a voulu déployer un certain montant d'argent pour analyser la formation, le développement des entraîneurs. Fait que ça s'est fait dans 6 organisations civiles. Le projet a tellement bien fonctionné qu'ils ont décidé d'intégrer 6 fédérations sportives. Puis l'objectif, en fait, c'est de voir est-ce que la formation, le développement des entraîneurs est actuel au goût de 2021 ou on est encore un peu dans le traditionnel par rapport à ça. Okay. Puis là, quand on parle de formation, évidemment, on a notre papier à aller chercher, là, la formation de base du PNCE, là, du Programme national de certification des entraîneurs. Oui, parfait, c'est une formation de base, comme un diplôme. Comme moi, j'ai étudié en kinésiologie, j'ai mon diplôme de kinésiologue. Mais comment je fais pour me garder à jour? Comment je fais pour me développer? Comment je fais pour me former? Fait que l'objectif, dans le fond, c'est est-ce que notre formation est adéquate au goût du jour? Fait que c'est un petit peu ça le projet. Fait que c'est super le fun. Puis ça m'a amené à réfléchir sur, un, c'est quoi toutes les activités qui étaient proposées? Qu'est-ce qu'on en est d'obligatoire versus justement proposé? Qu'est-ce qui nous manquait qu'est-ce qu'on demandait à qui, quel intervenant, quel formateur faisait quoi. Fait que ça a été beaucoup de réflexions bien intéressantes, puis je te dirais qu'on est encore en plein cœur de ça, en fait. Fait que le projet, c'est comme un projet que, en fait, on est un des choyés, on est 6 fédérations sportives. Donc, ça aussi qui est le fun, c'est que, tu sais, Baseball Québec, on est une fédération qui est très proactive. Puis une des raisons, entre autres, qu'on a été sélectionné parmi, c'est parce qu'on faisait déjà plein de choses. Fait que c'est pas que qu'est-ce qu'on faisait avant, c'était pas bon. Au contraire, une des raisons pourquoi on a été choisi de ça, c'est justement qu'on était proactif, on était à l'écoute, on était tout le temps en recherche de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Fait que notre sélection a été faite un petit peu là-dedans. Là. Fait que c'est bien intéressant.
Est-ce qu'il y a des changements concrets qui vont arriver pour 2022-2023 pour les prochaines formations d'entraîneurs? Parce que là, j'imagine que ce projet-là touche tous les entraîneurs de la province, du Rally Cap jusqu'à l'ABC. Là.
Exactement. Je te dirais qu'au-delà de la formation, ce qui va être le plus important, qu'on va vouloir prendre un petit peu un virage, c'est la culture de développement, d'avoir une nouvelle culture de formation. Okay? Fait que présentement, je peux le mettre en trois dimensions différentes. C'est que, évidemment, on veut améliorer toutes les connaissances, tout le côté professionnel. Fait que ça, c'est toutes nos activités baseball, gestion, peu importe quoi, mais qui est dans le quotidien. Ça, là, c'est on est des tonnes d'activités dans ce département-là. Mais quand on parle maintenant de changer de culture, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nos coachs pour améliorer maintenant le côté interpersonnel? Fait que la relation coach-joueur, la relation coach-arbitre, la relation coach-organisation. Fait que toute cette notion-là de gestion avec les autres. Fait que, et la troisième dimension, qui est qu'est-ce que le coach fait pour s'améliorer lui-même? On passe nos saisons à vouloir améliorer des joueurs, améliorer des athlètes, mais qu'est-ce que coach, on se donne comme objectif à nous d'être meilleur? Fait que ça, je te dirais que c'est un changement de culture pour essayer de couvrir ces trois dimensions-là. C'est notre plus gros mandat. On sait que ça ne sera probablement pas en 2022 parce qu'on sait que les besoins, ils sont souvent sur le côté professionnel, mais on veut amener ça. Puis évidemment, les activités proposées, ben on veut amener aussi des activités pour la participation des coachs A, les coachs compétitifs et le coach haute performance. Parce que c'est pas tous les mêmes besoins non plus. Fait qu'on veut couvrir, fait que si vous voyez un peu là, les trois dimensions, les trois catégories de coachs, fait qu'on a comme un peu un 9 cases à couvrir selon les besoins. Fait qu'il y a des choses évidemment qui vont se faire pour 2022. Il y a des choses que ça va être plusieurs années. Mais c'est un petit peu là, ce changement de réorganisation-là quand on parle de, là on va être actuel, qu'on va couvrir un peu tous les départements. Je te dirais que le plus gros changement que j'essaie de vouloir développer, c'est qu'à Baseball Québec, on a beaucoup de sous investis dans les programmes de soutien aux entraîneurs, dans des coordonnateurs régionaux qui organisent des activités de formation. C'est dur d'avoir autant de monde disponible présentement. Ils font une super bonne job. Le taux de satisfaction quand on se déplace est incroyable. Les sondages qu'on passe, là, c'est fou ce que ce monde-là fait sur le terrain. C'est vraiment apprécié. Ils font vraiment une super bonne job. Mais, on l'a dit, on n'est même pas capable de dépenser tout l'argent qu'on a parce qu'on n'a pas encore assez de ressources. On veut en faire encore plus. Puis, je te dirais que présentement, il y a déjà plein de mentors dans les associations que je vais dire qui traînent, mais qui font déjà des jobs de mentorat un peu. Fait que souvent, les coachs, quand on est à l'écoute, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un de surtout en début de saison, là, les nouveaux coachs, comment je fais pour remplir un line-up? C'est quoi ça, une liste de réserve? Qui faut que j'appelle? T'sais? Fait que la question de relation, tout ça, un petit peu, fait qu'on essaie de développer un programme de mentorat associatif pour avoir des ressources, en fait, des ressources qui existent déjà. Comment qu'on peut les former un peu à être cette structure-là de mentor? Par où je commence? Comment je peux faire réfléchir les coachs? Puis ça, je pense que c'est des besoins associatifs qu'ils ont. Fait que de mieux encadrer à l'intérieur même des associations, parce que souvent les nouveaux coachs, ils se revirent pas vers les fédérations, ils se revirent même pas vers la région. Eux autres, ce qu'ils connaissent, là, c'est le monde qui sont à côté de eux présentement. Fait que c'est qui les ressources qui peuvent leur répondre à côté de eux? Fait que je te dirais que mon gros objectif pour 2022, c'est à l'aide des associations, à l'aide des régions, à l'aide des coordonnateurs, d'organiser un peu là, cette équipe-là de hey, on a des ressources qui existent. Est-ce qu'on les connaît? Puis les coachs, comment ils peuvent se rendre à eux? Fait que ça, je pense que c'est mon gros défi à court terme. Puis on a déjà commencé à l'intérieur des régions de c'est quoi vos besoins? C'est qu'est-ce que vous voulez? Comment qu'on peut vous aider? Fait que je te dirais les trois priorités. S'assurer de développer de couvrir nos trois dimensions professionnelles, interpersonnelles, intrapersonnelles, de créer une ressource de mentorat dans les associations, puis être sûr qu'on soit capable de bien s'organiser, de changer notre culture au fil des années, là.
La pandémie, quand elle est arrivée, tout le monde un peu partout a été un peu pris de court. Il a fallu s'adapter avec des réunions Zoom. Vous le faites encore très bien à l'ABC aussi. Est-ce que tu te sens mieux préparé pour l'année 2022 à ce niveau-là? Est-ce que les gens peuvent s'attendre à de la formation différente, de la formation plus, je ne vais pas dire de qualité parce que la formation est de qualité, mais tu sais, mieux structurée parce que tu sais à quoi t'attendre pour la prochaine année. Puis il y a tellement un gros point d'interrogation. Tu sais, on va jouer à balle, mais la COVID, on ne sait pas trop ça s'en va où. Tu es où par rapport à tout ça?
Ouais, je vais séparer ta question en deux départements. Ok, le premier département, je vais rester vraiment pas dans le PNCE qui est l'information obligatoire, mais dans l'encadrement des coachs. En 2019, j'avais fait une tournée justement d'une couple de régions pour être à l'écoute. Puis déjà à cette époque-là, avant que la pandémie sorte, de créer des formations en ligne où ce que le coach est là peut se mettre devant son ordinateur, peut se plugger, pas un bon terme, mais peut se plugger devant son ordinateur pour une heure, puis c'était déjà une demande. Fait que je te dirais que la pandémie, le bon côté qu'on peut dire merci, c'est d'apprendre à s'organiser, d'apprendre justement à développer ce type de rencontre-là Zoom que les coachs n'ont pas à se déplacer. Parce qu'on sait, une saison de coach, que ce soit dans le 11 UB ou dans du 15 U2A ou dans la haute performance, les coachs en ont déjà plein, les culottes sont pleins. La question de temps, là, je pense que c'est un enjeu pour tout le monde, tout le temps. Fait que cette notion-là de vouloir faire des cours à distance est très intéressante. Puis, merci un peu à la pandémie d'avoir développé des experts, justement, de la formation à distance. Autant dans la façon d'aller chercher le message que de communiquer de quel genre de groupe qu'on devrait faire, de la vente de ces formations-là. Fait que ça, je pense que ça a été un gros avantage parce que c'est une demande que les coachs avaient. Puis ça nous permet d'être beaucoup plus spécifique parce que on peut avoir des ateliers plus courts puis de pas nécessairement se déplacer sur ça m'intéresse mais ça m'intéresse moins fait que j'y vais pas non là ça va être une heure on parle de tel sujet c'est précis fait que je pense qu'on est capable d'aller chercher ça pour le PNCE je pense que ça peut nous avoir aidé aussi sur des cours qui se donnent très bien en ligne des cours d'échange de réflexion des cours qu'on parle de stratégie qu'on parle un peu de pédagogie, de planification. C'est des cours qui s'adaptent super bien. Par contre, le statut un petit peu de Baseball Canada, c'est un petit peu ma mentalité, moi, je participe aussi au comité canadien, c'est que tout ce qu'on parle de technique, d'enseignement de la technique, ben là, évidemment, on va encore pouvoir privilégier le présentiel. T'sais, ce qu'on veut, c'est d'apprendre à enseigner de la technique. Comme j'ai un peu d'aller voir des techniques sur YouTube, c'est facile. D'être capable maintenant d'enseigner ce qu'on voit, c'est un autre paire de manches, tu sais. Fait que le stage à présentiel, je pense que maintenant, il faut qu'il serve à ça. C'est d'échanger avec des professionnels, d'échanger entre les coachs, mais sur quelle façon que j'enseigne ces certaines habiletés-là. Fait que ces cours-là vont rester un peu en pratique. Fait que la pandémie, oui, pour tous les sujets de discussion, le programme, pour le PNCE, ben, on va aller dans un modèle hybride, tu sais. Mais ça permet quand même un accès à toutes les formations, à tous les entraîneurs de la province, qui n'ont peut-être pas la chance non plus d'avoir tous les cours PNCE à toutes les années.
Un autre aspect qui était très populaire année après année, c'est la convention des entraîneurs. Peux-tu nous donner un petit update là-dessus? Là, parce qu'on sait que l'année passée, il n'y en a pas eu. J'imagine que cette année, on passe dans comme Babe Ruth, on passe dans le vide aussi.
Exactement. Malheureusement, je pense que c'est sûrement notre plus gros projet qui sort présentement. Là, on est swing and a miss encore. Là, je te dirais que on était un peu en stand-by, ça devenait un peu là, c'est quoi les normes. On avait des démarches déjà d'entreprise. À Québec, on avait le dôme de réservé là-dessus. Tu sais, dans la grande région de Montréal, on visait un format plus hôtel, distanciation, déjà moins de déplacements. On n'était pas dans le même format que, tu sais, justement, d'habitude, on loue un synthétique, tout le monde est là, rassemblé. On était déjà conscients de ça. On s'en allait vers salle. Ben malheureusement, évidemment, là, ça a tout tombé à l'eau pour cette année, là, de penser recevoir 400 personnes à un endroit avec les repas, avec fait que c'est un petit peu ça. Vite, on va essayer encore de se retourner de bord, justement, d'avoir quelques conférences provinciales, d'avoir des speakers, des gros speakers provinciales. Ça reste qu'on a un budget qui est alloué pour ça, puis que c'est important. On va essayer aussi de valoriser beaucoup des mini-conventions régionales. Je sais qu'il y a des régions qui ont commencé ça l'année passée aussi, puis c'est le fun aussi de mettre en valeur des professionnels de chacune des régions. Fait qu'on va, on va avoir un mix là, là-dessus. Puis même, je te dirais que l'année passée, dans les manches supplémentaires, on avait fait 12 ateliers spécifiques pour les coachs. Cette année, on s'est dit, on va le laisser plus à l'administration parce qu'on va revenir avec des conventions. Et là, on s'est fait pogner un peu. Là. Fait que vite, il va falloir s'organiser, faire quelque chose là-dessus. Là. Il y a tellement de thèmes qu'on veut aborder que malheureusement, c'est le projet qu'on a dû laisser tomber. T'sais. Puis, t'sais, je dis tout le temps un peu, je pense qu'on est quand même choyé au baseball. On est une fédération choyée dans le sens qu'on peut participer une saison à l'extérieur pendant l'été. Nos saisons sont modifiées, ouais. Mais on est quand même chanceux d'avoir des saisons. T'sais, je regarde présentement les participants au hockey, que t'sais, Max, t'sais, ton gars joue au hockey présentement, ça fait 3 ans de misère qu'ils vivent. Là, t'sais, fait que, t'sais, le, nous, je te dirais que merci, on peut avoir des saisons. Le désavantage de notre activité d'hiver, ben, c'est la convention un peu. T'sais, fait que, malheureusement, je pense que c'est un bel événement qu'on a hâte de refaire parce que ça lance bien l'année, ça sent bien les hostilités. Mais je ne pense pas que notre formation d'entraîneur prend un coup, prend du retard à cause de ça. C'est juste qu'on manque l'opportunité de faire un bel événement. On va essayer de le remplacer par d'autres choses pour être sûr que nos entraîneurs aient la chance d'avoir une autre activité qui est proposée propre à eux.
Oui, puis j'ai l'impression que la convention, c'était un peu quand la fin de la saison arrive, les gens veulent une pause. Ils ont été occupés tout l'été. Puis la convention, c'est un peu comme la ligne de départ. Pour la prochaine saison, les gens sont contents de se revoir. Puis c'est OK, on est reparti. J'ai été une fois à la convention à mon arrivée à BQ juste avant la pandémie, puis c'est le sentiment que j'avais que les gens se retrouvaient à content, puis c'est le début de la saison, formation commence, tout ça. Fait que je pense que c'est le côté surtout, mais ça ne va pas chercher la qualité de la formation, mais plus le kickstart là, de la saison. Il y a Michael qui...
Vas-y.
Non, mais j'ai une question.
Que c'est un bon mix des deux, tu sais, parce que souvent aussi, c'est la chance que... T'sais, on voit souvent des intervenants, des coachs de la haute performance qui sont là, qui vont venir donner des ateliers. Exact. Puis même ces coachs-là coachent pendant l'été. T'sais, même moi, j'ai beau le dire, là, t'sais, je suis entraîneur à l'ABC, mais, si vous me croisez, venez me voir, venez sur un terrain. Mais les chances que même moi, je puisse croiser des coachs tout le temps sont, je vais dire, t'sais, oui, je donne beaucoup de formation puis j'en vois beaucoup, mais à la limite, je pense que c'est la chance aussi aux coachs d'aller échanger avec des intervenants parce qu'ils ont la chance de les voir. T'sais. Parce que ce côté-là amenait ça aussi à la convention qui était très intéressant.
Oui, tout à fait. Deux questions, Yannick. La première, c'est Michael Breyer qui demande si ça pourrait pas être une bonne idée de filmer une pratique d'un club élite de haut niveau au Québec. Il parle de l'ABC, Team Québec, Team Canada, peu importe.
Ouais.
Puis ça donnerait un beau visuel pour les autres coachs de voir, hey, c'est ça une vraie pratique structurée. T'sais.
Oui, en fait, c'est une très bonne initiative. On a essayé de le faire une fois à l'extérieur dans des pratiques comme ça. La problématique, c'est tout le temps le son, c'est tout le temps un peu de comment qu'on le fait. Fait que c'est un peu de. Je te dirais que techniquement, c'est quelque chose qu'on souhaite. On a même fait des soumissions, tu sais, Jeff, tu t'en rappelles, là, pour avoir des drones un peu, là, de voir là, par en haut comment est-ce qu'on est. On est un peu dans le projet, étudier le projet. Ce qu'on regarde vraiment présentement, puisque je dis un peu dans mes formations, c'est d'avoir des capsules avec nos coachs, même pour voir notre quotidien à l'entraînement. Tu sais, puis je donne souvent, c'est moi, je t'en charge présentement de l'avant-charge, je fais un petit peu de bâton aussi. Puis vous seriez surpris, je dis ça à tous mes entraîneurs, à quel point que même avec les joueurs d'avant-charge de l'ABC, je fais des exercices qui peuvent se retrouver dans 11 UB. Des exercices de base que nous, on s'en sert probablement comme échauffement, comme activation, qui peuvent donner une séance. Mais à quel point que nos exercices sont plus simples, comment qu'on met nos joueurs en action. C'est là-dessus qu'on va aller, je pense, de filmer des petits thèmes d'ateliers qu'on va vouloir recréer par rapport à ça. Puis tu sais, je vais faire d'autres annonces bientôt sur ce qui s'en vient là, du côté entraîneur. Mais tu sais, de filmer la pratique complexe, ça reste à voir, ça reste dans la spécificité. Mais je vous promets qu'il va y avoir des bouts de pratique, des bouts d'ateliers qui vont être filmés. Ça, c'est une très bonne idée.
Des fois, ce qui est plus facile à faire, là, quand tu es un entraîneur passionné et tu as vraiment le goût de voir comment ça se passe, tu écris à un des coachs de l'ABC, ça va leur faire plaisir de t'inviter sur place. Je suis plus là. Mais ça va leur faire plaisir de vous inviter sur place, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Puis écoutez, ça va être. On est toujours ouvert à faire ça. Fait que gênez-vous pas, ceux qui ont vraiment l'intérêt, là, c'est encore plus facile que d'être sur son ordinateur et de regarder ce qui se passe. Là. Ta deuxième question, Jeff?
Ouais,
exactement.
Ben ouais, ça, rapidement, Yannick, parce qu'on on a déjà fini, puis je lance déjà l'invitation pour une prochaine fois. Question de M. Bonin. Est-ce que tu as une idée, Yannick, s'il y aura un plan pour la formation continue comme l'an dernier, fait par Laval et Laurentides? Yannick, tu avais fait une séance vidéo, justement, par rapport à ça.
Ben, oui, il va y avoir un plan. Effectivement, Laval-Laurentide, l'année passée, avait fait une série de 5 conventions en ligne. Fait que quand on parlait de mini-conventions régionales, l'année passée, Laval-Montréal avait fait une série de 5 ateliers en ligne, justement. J'avais animé une des stations, justement, de comment intégrer de la défensive, le pratico-pratique. Ça reste une convention régionale. C'est quelque chose qu'on veut faire la promotion. Fait que je dirais oui. Où est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'elle va se faire? À voir. Mais excellent. C'est sûr que des initiatives régionales comme ça vont se faire, là. Ouais.
Excellent, excellent. Yannick, je te lance déjà l'autre invitation, comme je viens de mentionner. On va prendre plus de temps. Puis pour vrai, dans les prochaines semaines, je pense que tu as du stock en masse à nous raconter. Fait que on se revoit prochainement. Merci à Max pour la belle semaine. Vendredi, je vais être avec Steve Langlois, un ancien de BQ et présentement avec un sport-études. Vous allez m'aider, c'est sport-études. Triolet. J'avais. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Steve. Donc, on reçoit Steve Langlois qui va nous parler de son expérience avec le sport-études. Puis j'invite tout le monde à aller s'inscrire sur notre page Facebook. Pas les agents libres, hein, je me trompe, mais le show du matin. Bref, ma langue tortille ce matin. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Max. Bye-bye. On se revoit. On se revoit vendredi. Salut.
Yes, sir. Bonne journée.
Membre de la famille H2O Web Media.